Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneau.
Invité politique ce soir, le président des Hauts-de-France et patron du mouvement Nous France. Bonsoir Xavier Bertrand.
Bonsoir.
Merci d'être en direct sur Europe 1. Une manif nationale jeudi, une manif des jeunes aujourd'hui, une mobilisation le mardi 31. Est-ce que vous comprenez et cautionnez ces rassemblements ?
Écoutez, pour un responsable politique, le sujet, ce n'est pas de cautionner les rassemblements ou d'aller défiler. C'est d'essayer de trouver une solution face, on voit bien, à une situation qui est un peu une situation d'incompréhension dans le pays. C'est un problème que les Français n'acceptent pas aujourd'hui la réforme telle qu'elle est présentée, alors même qu'elle est absolument nécessaire.
Et vous n'étiez pas encore ministre du Travail pendant la réforme Woerth sur les retraites, mais en même temps, vous étiez secrétaire général de l'UMP. Vous avez suivi ces manifestations en 2010 qui se sont poursuivies longtemps. Est-ce que ce sont les mêmes aujourd'hui ?
Ah, vous pouvez même me rajeunir davantage, hein, Pierre de Villeneuve. Vous pouvez même me rajeunir davantage parce qu'en 2003, oui. Je sais que ça remonte à loin pour beaucoup d'auditeurs, j'étais le rapporteur du texte de 2003 qui avait aligné la durée de cotisation du public sur le privé. On était passé de 37 ans et demi à 40 ans et ensuite qu'elle allait devenir 41 ans pour tout le monde. Et donc j'étais le rapporteur de ce texte et à l'époque il y avait eu aussi beaucoup de manifestations, mais à un moment donné, il y a eu aussi une acceptation de la réforme par les Français pour deux raisons. C'est qu'on demandait des efforts, mais il y avait aussi beaucoup de justice. C'est à ce moment-là qu'on avait mis en place le dispositif des carrières longues pour permettre à celles et ceux qui avaient commencé à travailler à 14 ans, à 15 ans et à 16 ans de partir avant 60 ans en prenant en compte leur durée de cotisation. Et la deuxième raison, c'est qu'il y avait eu un accord avec la CFDT, syndicat réformateur à l'époque, syndicat toujours réformateur aujourd'hui, qui avait aussi amené des solutions. Et c'était cet accord qui nous avait permis de voter justement cette réforme, qui était une réforme difficile. Vous savez, les retraites, c'est pas une réforme facile, c'est pas une réforme comme les autres. D'une part, ça touche à ce qu'est le pacte social français entre les Français, entre les générations. Et les retraites, si on ne comprend pas que ce n'est pas une réforme, je dirais, comptable, où il s'agit d'aligner des chiffres, mais où on doit prendre en compte aussi le parcours de vie de chacun, la carrière de chacun. Enfin, en clair, si on n'est pas capable de mettre de l'humain dans cette réforme, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas être compris, ça ne peut pas être accepté.
Je note plusieurs choses. D'abord, si je comprends bien, vous considérez que cette réforme aujourd'hui, elle est injuste par rapport à celle sur laquelle vous avez travaillé qui était juste. Et puis, vous parlez du patron de la CFDT qui n'était pas le même à l'époque. Vous dites qu'aujourd'hui, visiblement, il bloque alors qu'à l'époque, ils étaient d'accord.
Non, je vous ai dit, à l'époque, la CFDT était un syndicat réformateur. Oui. C'est toujours un syndicat réformateur, la CFDT. La CFDT, c'est pas la CGT de M. Martinez. Il cherche des compromis, il cherche des solutions. Non, l'esprit de la CFDT, c'est toujours le même. Que ce soit François Chérec à l'époque ou que ce soit Laurent Berger aujourd'hui, sont des gens avec qui on peut discuter. On n'est pas forcément d'accord sur tout de A à Z, mais on peut discuter.
En attendant, Laurent Berger, voilà.
le gouvernement ne le fait pas.
De l'âge légal à 64 ans.
C'est aussi parce que tout simplement aujourd'hui, cette réforme est marquée du sceau de l'injustice et notamment pour trois exemples. Trois. Il y aurait d'autres sujets à discuter, mais il y a trois exemples. Vous savez, ce matin, j'étais à Dozulé, dans le Calvados, à l'invitation de Sophie Gauguin, qui est l'une des responsables de Nous France. Elle va organiser une réunion, il y avait beaucoup de monde. Et les personnes qui étaient là étaient à dire, OK, il faut travailler plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps. D'accord. Mais quand je leur explique qu'il est quand même injuste... que ceux qui ont commencé à travailler entre 18 et 20 ans fassent 44 années de cotisation au lieu de 43, ils sont d'accord avec moi. Quand je leur indique que les régimes spéciaux, quand on dit qu'ils vont s'éteindre dans 40 ans, 43 ans, quand les nouveaux entrés partiront à la retraite, ils trouvent que c'est injuste. Et quand je leur indique, parce que tout le monde ne le sait pas, qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup trop de femmes, qui partent à la retraite à 67 ans, 67 ans parce qu'elles n'ont pas eu une carrière complète, ils sont comme moi, ils trouvent que c'est injuste. Il faut lever ces injustices si on veut que cette réforme soit acceptée.
Vous allez sans doute m'engueuler en disant, vous dites ce que tout le monde dit, mais il y a des pays européens où on part à la retraite à 67 ans.
Oui, mais je veux aussi vous dire une chose. C'est que ce sont des pays européens dans lesquels on part à 67 ans, mais vous pouvez partir avant en ayant une décote. Or, à partir du moment où l'âge va passer à 64 ans, à part des circonstances exceptionnelles, la pénibilité, que ce soit les carrières longues, vous ne pourrez pas partir avant 64 ans. C'est ça qui, dans l'esprit des Français, joue. Et puis, on ne va pas se raconter d'histoire. Les priorités dans la tête des Français, aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat, l'inflation, l'énergie. Et la deuxième priorité, c'est la santé. Et ils ont le sentiment que cette réforme, elle arrive là tout de suite, alors qu'ils aimeraient tout simplement qu'on s'occupe des vraies priorités, les priorités numéro un.
Est-ce que c'est jamais le bon moment de la faire, cette réforme des retraites, Xavier Bertrand, vous qui en avez connu deux?
Écoutez, à partir du moment où vous demandez un effort, qui est même perçu comme un sacrifice, c'est jamais effectivement le moment exceptionnel, mais quand même, de plus mauvais moments, je ne suis pas sûr que ça existe. Maintenant, moi, il faut être très clair. Je le disais avant l'élection présidentielle, je le redis après, il faut accepter de travailler 2 ans de plus. Mais pas pour ceux qui ont commencé à travailler très jeunes et pas pour ceux qui sont cabossés par leur métier. C'est la pénibilité, c'est les carrières longues, ce sont ces femmes qui ont eu des carrières fractionnées. Et pour moi, cette réforme ne deviendra acceptable que si le gouvernement répond à ces 3 enjeux, répond à ces 3 conditions. Je ne suis pas le seul à le penser. J'étais très surpris parce que j'ai fait voter les gens ce matin. Au début, ils savent bien qu'il faut faire voter une réforme, mais le sentiment que celle-ci, c'est à prendre ou à laisser, c'est comme ça et qu'on ne va pas la changer, ça ne leur plaît pas.
Et à ce stade, les informations d'Europe 1 que nous avons, c'est que le gouvernement ne cédera ni sur les 64 ans, ni sur les annuités, vous parliez des annuités pour ceux qui ont commencé tôt, 44 ans d'annuité, ni sur les 1200 euros net versus brut, les deux seuls, j'allais dire, dossiers sur lesquels on pourrait avancer, et c'est la raison pour laquelle le ministre Olivier Dussopt est encore apparu hier devant les caméras et les micros lors de son déplacement à l'Hérault, ça serait l'index senior et les carrières hachées. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Non mais attendez, l'index senior, ça veut dire quoi ? Le problème, c'est pas de faire un index pour savoir si ça va mieux ou pas, c'est de se donner les moyens pour que ça aille mieux. Là encore, la réunion d'aujourd'hui, qui fait suite à la réunion que j'ai tenue à Paris en début de semaine avec Nous France, c'est les gens sont d'accord pour que on puisse continuer à former après 50 ans. Là aujourd'hui, l'effort de formation des entreprises pour les plus de 50 ans, il est dérisoire par rapport aux jeunes qui rentrent dans une entreprise. Or, si on vous forme pas après 50 ans, c'est qu'on va pas vous garder jusqu'au bout. Deuxièmement, pourquoi la surcote, on l'augmenterait pas pour donner envie pour ceux qui peuvent de continuer à rester plus longtemps en activité dans l'entreprise? Troisièmement, pourquoi arriver à un certain âge, on continue à vous faire payer plein pot les cotisations chômage et les cotisations retraite? Voyez, ça, ce sont des exemples très concrets. Il y avait une chef d'entreprise qui nous disait des mesures comme ça, oui, c'est une bonne chose à la fois pour le salarié senior et aussi pour l'entreprise. C'est pas la question de faire un index, la question c'est de trouver des solutions concrètes pour que ça s'améliore.
Vous avez parlé.
Et par ailleurs, vous disiez tout à l'heure que le gouvernement là est droit dans ses bottes, qu'il veut rien entendre, il veut rien changer.
Ce sont les informations que nous avons.
Oui, plusieurs choses. Ça c'est vrai aujourd'hui. Mais s'ils veulent qu'il y ait aussi les parlementaires qui votent cette mesure et s'ils veulent qu'il y ait aussi les Français qui acceptent et qui comprennent cette réforme, il va falloir aussi que le gouvernement entende. Parce que ce que je vous dis aujourd'hui là, c'est peu pour le gouvernement, mais c'est énormément pour les gens concernés. Les gens ne comprennent pas que parce qu'ils ont commencé à travailler à 18 ans, ils n'ont pas fait d'études supérieures. C'est certainement pas les plus gros salaires dans les entreprises. Mais eux, on va leur dire « Ah mais toi, tu vas faire un an de plus que les autres. » Elle est où la justice ?
Vous êtes au contact des gens qui vous parlent, qui vous disent l'injustice, selon certains, de cette réforme des retraites. Vous êtes au contact également, j'imagine, vous avez des câbles avec les parlementaires. On sait qu'il y a une quinzaine de députés de la majorité qui hésitent. On sait qu'il y a une demi-douzaine de LR et vous êtes dans ce parti LR. Est-ce que cette réforme, les LR, ils vont finir par la voter ou non ?
Il faut poser la question aux députés, mais quand vous dites une demi-douzaine, ce n'est pas vrai. Ils sont plus que ça, mais on n'est pas là pour faire une comptabilité, ce qui est surtout important.
Vous voyez, vous avez de meilleures informations que moi.
Oui, parce que je vois bien ce que me disent les uns et les autres et la façon dont ils réagissent aux éléments que je mets dans le débat, notamment les conditions que je pose, qui sont autant de solutions. Vous savez, les conditions que je propose là, ce sont des conditions d'amélioration. Ce n'est pas des conditions de blocage. Ce n'est pas du tout la même chose.
Mais vous
moi, je veux améliorer cette réforme parce qu'on en a besoin de cette réforme. Et notamment les extrêmes qui aujourd'hui vous disent « Ouais, il ne faut rien faire » et tout ça, c'est tout simplement des rigolos qui, ne proposant rien, seraient coupables de la baisse des pensions des retraités actuels. Voilà la vérité.
En l'état actuel des choses, vous seriez-vous dans l'hémicycle ? Vous la voteriez, cette réforme ?
Je vous l'ai dit. Tant que ces conditions ne sont pas remplies, c'est non.
C'est non. Ben, c'est clair. Autre information, Europe 1, en cas d'obstruction, on pourrait dégainer non pas le 49.3, mais le 47.1, qui est un article de la Constitution qu'on connaît peut-être un peu moins, qui réduit les délais pour le vote. Vous en pensez quoi ?
Mais attendez, c'est pas qu'il pourrait, mais c'est ce qui est déjà prévu. Mais c'est ce qu'ils ont en tête. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'au bout de 20 jours à l'Assemblée nationale, il n'y aura pas de vote définitif sur cette réforme. Ça va filer directement au Sénat, qui, lui, va l'examiner. Et ça ne reviendra qu'après ce que l'on appelle une commission mixte paritaire avec un vote. Bon, et bien plutôt que de chercher à échapper à un vote, le gouvernement ferait mieux de rechercher les voies d'un consensus en répondant justement à ces conditions et encore une fois, en présentant une réforme juste, vous donner les moyens justement d'emporter l'adhésion d'une majorité de parlementaires.
On a parlé.
Vous voyez, oui. Dans ce que vous venez de dire tout à l'heure, on est passé un peu vite. Vous dites, d'après les informations que vous avez, je pense que vos informations sont très très fiables, vous dites la question des 1200 euros, vous en avez parlé tout à l'heure.
Oui, le brut et le net.
Voilà. Vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer ? C'est-à-dire qu'on calcule ce qu'on appelle le minimum contributif, c'est 85% du SMIC net, on est d'accord ?
Oui.
Mais à l'arrivée, c'est du brut. Et on ne se fout pas du monde, là ? On ne se fout pas du monde ? On calcule ça sur le net, mais on en fait un brut. Ça veut dire que les retraités qui ont droit justement à ce minimum de pension, ils ont travaillé toute leur vie au SMIC, on leur calcule sur le net et on va leur donner en brut, c'est-à-dire qu'on va retrancher quelque chose. Non mais dans la vie, il faut savoir compter. Vous savez, je suis à la tête d'une région, j'ai été ministre, je sais compter. Mais il faut quand même aussi avoir un peu de cœur, mettre un peu d'humain dans les réformes.
Stanislas Guérini, ce matin, a justifié en disant qu'il n'y avait pas forcément toutes les cotisations dans le minimum retraite 1200. Et donc du coup, ça reviendrait à peu près à 1150 net.
Bah, peut-être que pour eux, ce n'est pas important 50 euros. Mais pour les gens concernés, 50 euros de plus à la fin du mois, ça compte beaucoup sur un compte en banque.
On
l'oublie peut-être un peu dans certaines sphères du pouvoir. Mais il y a des millions de Français qui sont à moins de 10 euros à la fin du mois. Et quand la fin du mois, ce n'est pas le 10 du mois.
On a parlé des Républicains, Xavier Bertrand. Nous, France, c'est votre mouvement, Xavier Bertrand. Lorsque vous concourriez à la primaire de la droite, on a tous remarqué que vous aviez repris votre carte aux Républicains. On vous croyait à fond dans ce parti, mais... Vous n'êtes pas dans l'organigramme, alors qu'il y a absolument toute la droite, j'allais dire, dans l'organigramme du nouveau président Éric Ciotti. Mais ça veut dire quoi ? C'est que nous, France, ça veut dire qu'à nouveau, d'une certaine manière, vous avez un pied dehors ?
J'y suis, chez LR, j'y reste. Je n'étais pas dans la direction, je n'y suis pas, mais quand vous regardez bien l'organigramme, je sais qu'il y a beaucoup de noms, mais si vous regardez bien, je suis dans le comité stratégique comme j'y étais auparavant. Voilà. Donc j'y suis, j'y reste. La vocation de Nous France. Si, je peux vous l'assurer.
Vous êtes en petit, alors parce que je vois absolument
je
toute
pas
la droite,
non plus,
même
donc
des
c'est
noms
pour
qu'on
ça
avait un peu oublié,
mais j'y suis.
Oui, oui, bon.
J'y suis. Bon, très sérieusement. Nous France, l'ADN de Nous France, c'est de défendre l'autorité, le travail, les territoires. Mais Nous France n'a pas vocation à présenter des candidats aux élections. Ça, c'est le rôle des partis politiques, sont focalisés sur les élections. C'est le cas de LR. Par contre, Nous France va proposer des solutions. Vous savez, par le passé,
donc
j'ai
c'est
eu
un think
notamment
tank
à proposer...
au sein de LR, on pourrait dire.
Non, ce n'est pas un think tank, c'est un mouvement politique où on rassemble des élus, des personnalités, de la société civile, beaucoup, je m'appuie beaucoup sur la société civile. Et vous voyez, dans la réunion que j'ai faite aujourd'hui avec Sophie Gauguin, lundi dernier, avec Jean-Didier Berthaud, il y avait aussi Bernard de Flessel, mon secrétaire général, je pense qu'il n'y avait même pas un quart des personnes qui étaient adhérentes de LR. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui étaient adhérentes d'aucun parti politique. On se veut un rassemblement, mais on travaille pour des solutions. J'étais, avant d'aller à Dozulé, j'étais à Lisieux. Lisieux avec Nathalie Porte, vice-présidente du Conseil régional de Normandie. Et là, les gens m'ont parlé pouvoir d'achat. Ils voulaient savoir ce que j'avais en tête quand je disais que pour l'électricité, le coût de l'énergie, je proposais, moi, que le surcoût soit pris à un tiers par l'État, un tiers par les énergéticiens, un tiers par les entreprises. Ils voulaient des explications. D'autres m'ont apporté des solutions sur la santé. Eh bien, on va apporter des solutions dans le débat politique de façon à ce qu'on soit utile pour les Français. Je sais ce que les Français pensent des politiques. Et ils n'ont pas tout à fait tort. Bon, ils pensent qu'on ne s'occupe pas assez d'eux et qu'on ne se bat pas assez pour eux. Eh bien, ce que je fais dans ma région, me battre pour les gens, je vais le faire aussi avec Nous France. Je vais me battre pour apporter des solutions, apporter plus de justice et me battre aussi pour qu'on améliore la vie des Français. Même si je suis dans l'opposition, je vais continuer à faire ça.
Vous m'avez cité des noms, je vais vous en citer aussi, Xavier Bertrand. Si je vous dis Laurent Wauquiez, vous dites quoi ?
Il est président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, hein, je crois. C'est
bravo.
Bien ça.
Si je vous dis David Lisnard, vous dites quoi ?
Il est maire de Cannes. Il y a beaucoup de talent, David Lisnard.
Oui, vous êtes bon. Hein,
vous me faites un quiz.
Ben oui, je vous fais un quiz. Mais j'aurais aimé en savoir davantage. Ce sont des noms qui sont évoqués pour 2027. Est-ce que vous qui apportez des solutions...
Voilà, mais vous avez vu ce que je vous ai dit avant.
Oui.
Les Français...
Mais j'avais pas fini mon quiz.
Attendez, les Français, ils en ont bien souvent ras-le-bol de la politique parce qu'ils pensent qu'elle ne peut plus changer leur vie, plus l'améliorer. Alors, avant de rentrer dans, comme on dit chez nous en patois, dans un name-dropping et autres, moi, je vais continuer à me battre pour apporter des solutions. Et je vous l'ai dit, après les retraites, ce dossier n'est loin d'être terminé. On va beaucoup travailler sur la santé. Même si je suis ancien ministre de la Santé, je cherche aujourd'hui des solutions vraiment nouvelles parce que on a l'hôpital qui va très très mal, on a la médecine de ville qui va très très mal, et quand vous avez besoin d'aller à la pharmacie pour trouver des médicaments, c'est aujourd'hui, c'est pire que la chasse au trésor.
Vous rigolez, mais c'est un discours présidentiel avant l'heure que vous tenez là, Xavier Bertrand, et j'imagine qu'on va pouvoir ajouter votre nom à ceux que je viens de citer, bientôt.
Écoutez, je vais vous dire une chose, j'ai voulu être candidat en 2022, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout, je sais une chose, c'est qu'avant de savoir si vous êtes très déterminé pour être candidat, il faut déjà bien faire votre boulot de président de région et aujourd'hui de président de Nous France et de montrer qu'on peut être utile pour les Français parce qu'on se bat pour eux. Voilà ce qu'est aujourd'hui ma ligne de conduite et vous ne m'en ferez pas changer.
Eh bien c'est très clair, mais c'est une forme de réponse. Merci Xavier Bertrand d'avoir été avec
Merci
nous.
Merci à vous.
En direct.
Bonne soirée, bon week-end.
Sur Europe 1, à vous aussi dans un instant. Ça fait débat avec les débatteurs jusqu'à 19h.